besoin. Elle courut chez Arnoux. Il habitait le faubourg Saint-Germain et le portier ignorait la rue. Elle se transporta chez plusieurs amis, ne trouva personne et rentra désespérée. Elle ne voulait rien dire à Frédéric, tremblant que cette nouvelle histoire ne fît du tort à son mariage. Le lendemain matin, maître Athanase Gautreau se présenta, flanqué de deux acolytes, l'un blême, à figure chafouine, l'air dévoré d'envie, l'autre portant un faux col et des sous-pieds très tendus, avec un délot de taffetas noir à l'index, et tous deux, ignoblement sales, avaient des cols gras, des manches de redingote trop courtes. Leur patron, un fort bel homme, au contraire, commença par s'excuser de sa mission pénible, tout en regardant l'appartement, plein de jolies choses, ma parole d'honneur. Il ajouta, « Outre celles qu'on ne peut saisir. » Sur un geste, les deux recors disparurent. Alors, ses compliments redoublèrent. Pouvait-on croire qu'une personne aussi charmante n'eût pas d'amis sérieux? Une vente par autorité de justice était un véritable malheur. On ne s'en relève jamais. Il tâcha de l'effrayer, puis, la voyant émue, prit subitement un ton paterne. Il connaissait le monde, il avait eu affaire à toutes ces dames. Et en les nommant, il examinait les cadres sur les murs. C'étaient d'anciens tableaux du brave Arnoux, des esquisses de Sombase, des aquarelles de Burieux, trois paysages de Dittmer. Rosanette n'en savait pas le prix, évidemment. Maître Gautreau se tourna vers elle. « Tenez, pour vous montrer que je suis un bon garçon, faisons une chose. Cédez-moi ces Dittmer-là, et je paye tout. Est-ce convenu ?» À ce moment, Frédéric, que Delphine avait instruit dans l'antichambre, et qui venait de voir les deux praticiens, entra, le chapeau sur la tête, d'un air brutal. Maître Gautreau reprit sa dignité, et comme la porte était restée ouverte, « Allons, messieurs, écrivez. Dans la seconde pièce, nous disons une table de chêne, avec ses deux rallonges, deux buffets. » Frédéric l'arrêta, demandant s'il n'y avait pas quelque moyen d'empêcher la saisie. « Oh, parfaitement. Qui a payé les meubles ?
Moi. »
« Eh bien, formulez une revendication. C'est toujours du temps que vous aurez devant vous. » Maître Gautreau acheva vivement ses écritures et, dans le même procès-verbal, assigna en référé Mademoiselle Bron, puis se retira. Frédéric ne fit pas un reproche. Il contemplait sur le tapis les traces de boue laissées par les chaussures des praticiens et se parlant à lui-même. « Il va falloir chercher de l'argent. »« Ah, mon Dieu, que je suis bête !» dit la maréchale. Elle fouilla dans un tiroir, prit une lettre et s'en alla vivement à la société d'éclairage du Languedoc afin d'obtenir le transfert de ses actions. Elle revint une heure après. Les titres étaient vendus à un autre. Le commis lui avait répondu en examinant son papier, la promesse écrite par Arnoux. Cet acte ne vous constitue nullement propriétaire. La compagnie ne connaît pas cela. Bref, il l'avait congédiée, elle en suffoquait. Et Frédéric devait se rendre à l'instant même chez Arnoux pour éclaircir la chose. Mais Arnoux croirait peut-être qu'il venait pour recouvrer indirectement les 15 000 francs de son hypothèque perdue. Et puis cette réclamation à un homme qui avait été l'amant de sa maîtresse lui semblait une turpitude. Choisissant un moyen terme, il alla prendre à l'hôtel d'Ambreuse l'adresse de Madame Reginbard, envoya chez elle un commissionnaire et connut ainsi le café que hantait maintenant le citoyen. C'était un petit café sur la place de la Bastille, où il se tenait toute la journée dans le coin de droite, au fond, ne bougeant pas plus que s'il avait fait partie de l'immeuble. Après avoir passé successivement par la demi-tasse, le grog, le bischoff, le vin chaud et même le rougi, il était revenu à la bière, et de demi-heure en demi-heure laissait tomber ce mot « boc », ayant réduit son langage à l'indispensable. Frédéric lui demanda s'il voyait quelquefois Arnoux. « Non.
Tiens, pourquoi ?
Un imbécile. » La politique, peut-être, les séparait, et Frédéric crut bien faire de s'informer de Compin. «
Quelle brute ! » dit Reginbard.
« Comment cela ? » ?»«
Sa tête de veau. »«
Ah ! Apprenez-moi ce que c'est que la tête de veau. » Reginbard eut un sourire de pitié.
« Des bêtises. »
Frédéric, après un long silence, reprit. « Il a donc changé de logement. »
« Qui ? Arnoux ?»«
Oui, rue de Fleurus. »
« Quel numéro ? »
« Est-ce que je fréquente les jésuites ?»«
Comment, jésuites ?»
Le citoyen répondit, furieux. « Avec l'argent d'un patriote que je l'ai fait connaître, ce cochon-là s'est établi marchand de chapelet. »«
Pas possible.
Allez-y voir. »
« Rien de plus vrai. Arnoux, affaibli par une attaque, avait tourné à la religion. D'ailleurs, il avait toujours eu un fond de religion. »
Et avec l'alliage de mercantilisme et d'ingénuité qui lui était naturel,
pour faire son salut et sa fortune, il s'était mis dans le commerce des objets religieux. Frédéric n'eut pas de mal à découvrir son établissement, dont l'enseigne portait aux arts gothiques, restauration du culte, ornements d'église, sculptures polychromes, encens des rois mages, etc., etc. Aux deux coins de la vitrine s'élevaient deux statues en bois, bariolées d'or, de cinabre et d'azur. Un saint Jean-Baptiste avec sa peau de mouton, et une sainte Geneviève, des roses dans son tablier, et une quenouille sous son bras. Puis, des groupes en plâtre, une bonne sœur instruisant une petite fille, une mère à genoux près d'une couchette, trois collégiens devant la sainte table. Le plus joli était une manière de chalet figurant l'intérieur de la crèche avec l'âne, le bœuf et l'enfant Jésus étalés sur de la paille, de la vraie paille. De haut en bas des étagères, on voyait des médailles à la douzaine, des chapelets de toute espèce, des bénitiers en forme de coquille et les portraits des gloires ecclésiastiques parmi lesquels brillaient Monseigneur Affre et notre Saint-Père, tous deux souriants. Arnoux, à son comptoir, sommeillait la tête basse. Il était prodigieusement vieilli, avait même autour des tempes une couronne de boutons roses, et le reflet des croix d'or frappées par le soleil tombait dessus. Frédéric, devant cette décadence, fut pris de tristesse. Par dévouement pour la maréchale, il se résigna cependant, et il s'avançait. Au fond de la boutique, Madame Arnoux parut, alors il tourna les talons. « Je ne l'ai pas trouvé, » dit-il en rentrant. Et il eut beau reprendre qu'il allait écrire, tout de suite, à son notaire du Havre, pour avoir de l'argent, Rosanette s'emporta. On n'avait jamais vu un homme si faible, si mollasse. Pendant qu'elle endurait mille privations, les autres se gobergeaient. Frédéric songeait à la pauvre Madame Arnoux, se figurant la médiocrité navrante de son intérieur. Il s'était mis au secrétaire, et comme la voix aigre de Rosanette continuait, « Ah, au nom du ciel, tais-toi. Vas-tu les défendre par hasard ? Eh bien oui ! » s'écria-t-il, « car d'où vient cet acharnement ? Mais toi, pourquoi ne veux-tu pas qu'il paye ? C'est dans la peur d'affliger ton ancienne, avoue-le. » Il eut envie de l'assommer avec la pendule. Les paroles lui manquèrent. Il se tut. Rosanette, tout en marchant dans la chambre, ajouta. « Je vais lui flanquer un procès à ton Arnoux. Oh, je n'ai pas besoin de toi. » Et pinçant les lèvres, « je consulterai. » Trois jours après, Delphine entra brusquement. « Madame, madame, il y a un homme avec un pot de colle qui me fait peur. » Rosanette passa dans la cuisine et vit un chenapan, la face criblée de petites véroles, paralytique d'un bras, aux trois quarts ivre et bredouillant. C'était l'afficheur de Maître Gautreau. L'opposition à la saisie ayant été repoussée, la vente, naturellement, s'ensuivait. Pour sa peine d'avoir monté l'escalier, il réclama d'abord un petit verre. Puis, il implora une autre faveur, à savoir des billets de spectacle, croyant que madame était une actrice.